que nous continuons, que nous avons à recevoir et à continuer tout simplement. Donc, je fais de l'histoire, mais en étant tourné vers le présent et, si possible, vers l'avenir. Je ne traiterai pas d'une manière complète les problèmes du travail dans le christianisme antique. Je vous donnerai simplement quelques pistes de réflexion. Mais ces pistes de réflexion, je les fonde sur des textes que vous avez sous les yeux et que vous pourrez bien sûr emporter. Je crois qu'il est important que vous puissiez, que nous puissions ensemble nous appuyer sur des textes, avoir des documents d'époque et nous rendre compte de ce degré d'engagement auquel sont arrivés des auteurs chrétiens des premiers siècles. Je vous invite, et je le dis là encore de façon très sincère, à recevoir ces textes comme une nourriture, à concevoir les pères de l'Église comme des maîtres et même des amis, des aînés dans la foi, et à vous dire simplement, j'aime bien dire cela quand j'ai l'occasion de parler dans des lieux chrétiens, ce qui m'arrive assez souvent et ce qui m'est beaucoup arrivé depuis quelques décennies, j'aime bien dire aux gens, ces textes-là, ces auteurs-là que je vous propose, c'est à vous, ça vous appartient, c'est à vous réapproprier, c'est à prendre pour vous. Et je citerai un de mes amis théologiens, il y a quelques années, dans une discussion où nous avions vu quelques documents ensemble, et puis tout à coup, il a eu un grand moment d'admiration, et puis il a dit, mais vraiment, c'était des géants. Eh bien oui, c'était des géants. On a eu, dans l'histoire du christianisme, des penseurs, des pasteurs, des hommes à la fois d'intelligence et d'engagement qui étaient des géants. Alors il y a, vous savez très bien, ce proverbe médiéval, cette manière médiévale de voir les choses consiste à dire que nous devons monter sur les épaules des géants. Eh bien, c'est exactement ce à quoi je vous invite. Montons ensemble sur les épaules des géants de manière à préparer ce que nous pouvons préparer de l'avenir. Le plan, vous l'avez sous les yeux, c'est pas très compliqué. C'est en quatre parties que j'ai numéroté en chiffres romains, très banalement. Rencontre, car le mot a été employé par les organisateurs dans le titre de la conférence, donc la rencontre entre le christianisme antique et puis ce domaine de l'économie et du travail. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui n'ont pas l'exemplier, est-ce qu'il y en a qui seraient dans un coin ou dans l'autre, qui pourraient encore être redistribués? J'ai l'impression que ça vient. Oui, parce que c'est important d'avoir les textes sous les yeux. Donc, rencontre d'abord. J'essaie d'expliquer pourquoi il peut y avoir rencontre entre le christianisme et ces réalités de l'économie et du travail. Également par là, me semble-t-il. Dans un deuxième moment, je m'interrogerai sur la prétendue réhabilitation du travail par le christianisme dans l'Antiquité. Dans un troisième temps, je voudrais vous montrer qu'il y a dans le christianisme antique l'invention d'une responsabilité individuelle des acteurs de l'économie qui se substitue à des généralités de l'Antiquité païenne. Enfin, dans un quatrième temps, je voudrais vous montrer qu'il y a, chez les pères, je donnerai quelques exemples, une véritable capacité d'analyse de situations, de processus, de mécanismes, et pas simplement des discours moralisants disant « il ne faut pas faire ci, il faut faire ça ». Voilà ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est qu'il y a un certain réalisme de ces pères de l'Église. Grantin, donc, rencontre, ça ne va pas de soi. C'est une question qu'il faut poser tout de suite. Au fond, pourquoi le christianisme est-il amené, pourquoi la tradition chrétienne, ou pourquoi les chrétiens, si vous voulez, pourquoi les chrétiens sont-ils amenés, dès les origines, à s'occuper d'économie ou à avoir un certain contact avec la réalité du travail? Bon, ça ne va pas nécessairement de soi. Ça ne va pas de soi, par exemple, dans une perspective païenne. Pourquoi ? Parce que ce que nous avons dans la tradition gréco-romaine de la religion, du polythéisme, c'est essentiellement l'observation de rites. Ce sont des pratiques religieuses qui sont extrêmement pauvres sur le plan éthique, sur le plan de la morale. Donc, ce sont des pratiques religieuses qui ne disent pas grand-chose à l'économie, qui ont peu à dire à l'économie, qui ont peu à dire à la société, qui ont assez peu à dire aux relations des êtres humains entre eux. En revanche, nous avons dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne quelque chose qui est très particulier par rapport aux religions environnantes de l'Antiquité, ce serait le cas aussi de la religion égyptienne. Nous avons des religions, nous avons des traditions religieuses qui se soucient à la fois du rapport à Dieu et du rapport aux autres êtres humains. Et cela, nous le voyons dans l'enseignement de Jésus avec le fameux dialogue entre Jésus et un maître juif qui n'est pas un maître hostile, qui est quelqu'un qui veut dialoguer avec Jésus et qui lui demande, c'est mon texte numéro 1, quel est le plus grand commandement? Je prends la version de Marc parce qu'elle est la plus complète. C'est d'ailleurs très paradoxal, Marc est le plus bref des évangiles, or sur cet épisode, il est plus long que Matthieu. Il est plus précis. On demande à Jésus, un maître demande à Jésus, quel est le plus grand commandement? Ce qui est un exercice rabbinique classique. Comme il y a 613 commandements, 613 mitzvot, c'est compliqué. Le judaïsme est une religion compliquée, extrêmement exigeante d'un strict point de vue intellectuel. Et on demande à Jésus sa capacité à simplifier. Est-ce que, comme d'autres maîtres, il est capable de dire quel est le plus grand commandement qui va résumer tous les autres? Or, ce qui est très frappant, c'est que Jésus ne répond pas avec un commandement, mais qu'il répond avec deux. Et vous avez le texte, le premier commandement de tous est « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ton intelligence et de toute ta force. » Donc c'est Deutéronome 6, 4, 5 comme vous le voyez. Et aussitôt Jésus met un second commandement, ma traduction est littérale, je décalque le texte grec, je suis tout à fait le texte grec. Le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Lévitique 19, 18, il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Donc là, vous avez la clé de tout ce que le christianisme peut apporter à la vie humaine dans ses différentes dimensions, et notamment dans ces dimensions de rapports interpersonnels qui peuvent être des rapports sociaux, qui peuvent être des rapports économiques, qui peuvent être des rapports familiaux, c'est que le rapport à Dieu et le rapport au prochain sont liés. Alors simplement, c'est pas le même type d'amour. On aime Dieu d'un amour absolu, on aime le prochain comme soi-même, et soi-même, dit saint Augustin commentant cela, soi-même, on ne doit pas s'aimer plus que Dieu, ni même autant que Dieu, et on s'aime vraiment soi-même quand on aime Dieu plus que soi. Il y a une mesure de l'amour de soi-même qui est Dieu. Alors, si vous voulez, rien que cela, qui est sans cesse repris par les pères de l'Église, hein, ces deux commandements qui sont le plus grand commandement, ça fonde tout ce qui est moral, au fond, dans le christianisme, et toutes ses virtualités sociales, toute son efficacité sociale. Je rapprocherai cela de la citation de Osée 6, 6, que vous avez en Matthieu 9, 13, mais aussi en Matthieu 12, 7, Jésus disant, en partant, apprenez ce qu'est « Je veux de la miséricorde et non pas un sacrifice », Osée 6, 6, qui est magistralement mis en scène dans la série « The Chosen hein, », le passage apparaît plusieurs fois. Or, c'est quelque chose de capital, parce que ça remonte à un prophète, ça remonte à Osée, et ça nous met en face d'une particularité extraordinaire de la tradition biblique, de la tradition biblique et juive. C'est que c'est une tradition religieuse qui implique une critique de ses propres rites. Il y a recul critique. Ne vous contentez pas d'offrir des sacrifices. Occupez-vous aussi de votre prochain. Et Jésus lui-même reprend. Dans Matthieu, deux fois, on a deux fois cette citation dans la bouche de Jésus. Donc, le rapport à autrui est très important. Et la religion ne doit pas être une manière de fuir la réalité en méprisant le rapport à autrui. Ça, c'est un premier aspect qui me paraît extrêmement typique de la tradition chrétienne auparavant, de la tradition tout simplement biblique, le lien entre le rapport à Dieu et le rapport au prochain. Et puis, vous avez, c'est un deuxième aspect de cette rencontre, vous avez l'expérience de la toute première communauté de Jérusalem, avec, dans évidemment des passages que vous connaissez, notre texte numéro 3, car il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Ce partage des biens que l'on voit, sur lequel il y aurait énormément à dire, mais je vais nécessairement vite là-dessus, est justifié avec une affirmation très importante, car il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Il y a bien cette idée dans la première communauté de disciples de Jésus, je ne dis pas première communauté chrétienne, parce que le mot chrétien n'est pas encore inventé à ce moment-là. Mais il y a cette idée dans la communauté primitive que personne ne doit être abandonné, que personne ne peut être dans l'indigence alors que ses frères auraient plus qu'il ne faut pour vivre. Or, cela nous renvoie à Deutéronome 15,4, c'est-à-dire à une règle de l'installation en terre promise, il n'y aura pas d'indigent parmi vous. Autrement dit, il y a dans l'installation du peuple élu sur la terre promise un programme socio-économique venant de la part de Dieu. Ce programme socio-économique est repris par les premiers fidèles de Jésus après la Pentecôte, et il établit d'une manière définitive un principe d'entraide qui existe depuis deux millénaires au sein des communautés chrétiennes et que l'on voit dans l'Antiquité se développer de plus en plus et s'adresser même aux païens. L'institution de l'hôpital est une invention chrétienne, tout simplement. L'orphelinat aussi, etc. Un certain nombre de structures d'assistance, de bienfaisance sont d'origine chrétienne. Et puis, vous avez un autre thème, le travail, c'est abstrait. Il y a la question des métiers. Or, il y a une chose tout à fait frappante, c'est que nous connaissons les métiers des personnages les plus importants à l'origine de la tradition chrétienne, de Jésus, texte 4, Jésus comme charpentier. Hein, c'est pas le fils du charpentier comme dans Matthieu, mais chez Marc, c'est le charpentier. Texte 6, Paul fabriquait des tentes. Il se retrouve à un certain moment avec des gens qui ont le même métier que lui et qui l'hébergent parce qu'ils peuvent travailler ensemble. Donc nous savons le métier de l'apôtre Paul, nous savons le métier de Pierre, évidemment. Et donc vous avez là une réalité concrète du métier à propos de personnages qui, pour nous, avant tout, sont des messagers d'un message religieux. Et puis, il y a une autre dimension qui est portée par la tradition chrétienne, qui est celle d'un sens cosmique du travail, d'un sens donc planétaire du travail. Dans l'histoire humaine, l'être humain, dans l'histoire, transforme la nature, transforme le monde. Le travail n'est donc pas une conséquence du péché originel, il est partie intégrante de la vocation de l'être humain face au cosmos. C'est ce que vous avez en Genèse 2,15. Et le Seigneur Dieu prit l'homme qu'il avait créé et le plaça dans le paradis pour le travailler et le garder. En général, on pense à Genèse 3,17-19 et on oublie Genèse 2,15. C'est ce que fait par exemple Auguste Comte, qui, au XIXe siècle, accuse le christianisme d'avoir conçu le travail comme une pure et simple malédiction. Or, si nous regardons les malédictions qui sont au chapitre 3 de la Genèse après le premier péché, ce sont des malédictions qui portent sur la maternité, qui portent sur la procréation et qui portent sur le travail. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les deux moteurs de l'histoire humaine, la procréation et le travail, ce qui fait que l'humanité se développe, qu'elle croit et qu'elle change le monde. Ce sont ces deux réalités qui sont touchées, mais la procréation comme le travail sont des réalités du paradis terrestre, des réalités d'avant la faute et non pas des conséquences de la faute. Alors, vous avez, entre autres commentaires des Pères de l'Église, le texte 8 où c'est Augustin qui commente et qui se pose la question, est-ce qu'effectivement l'être humain travaillait le paradis terrestre ? Alors, vous avez cette réponse d'Augustin. Le Seigneur a-t-il, enfin, ça commence par une question. Le Seigneur a-t-il voulu que le premier homme se livre au travail de la terre? N'est-il pas peu vraisemblable qu'avant le péché, il ait condamné l'homme à l'effort? Nous le penserions si nous ne voyions pas certains s'adonner avec tant de plaisir à l'agriculture qu'ils l'abandonnent à grand-peine pour d'autres activités. Quelque charme qu'est d'ailleurs l'agriculture, elle en avait alors bien plus, donc avant le péché, quand ni le sol ni le climat ne lui opposaient le moindre obstacle. Donc vous voyez, la démarche d'Augustin est une démarche à la fois de réflexion sur les textes bibliques, tiens, il est question du travail avant le péché originel. Et en plus d'observation de la réalité, tiens, autour de moi, se dit-il, il y a des gens qui prennent énormément de plaisir à l'agriculture et qui sont très attachés à leur vie de cultivateur. Et ça, c'est pour Augustin comme une trace de ce bonheur premier que pouvait avoir au paradis terrestre celui qui cultivait la terre sans qu'il y ait une résistance de la nature à son action. Donc, je ne développe pas ce thème, mais il faut que nous l'ayons bien en tête. Il y a une vocation laborieuse de l'être humain, une vocation à prendre soin de la création. Et d'une certaine manière, la création n'est pas livrée à elle-même, elle est confiée à l'être humain. Alors j'en viens à un thème qui a une réelle importance dans l'histoire des idées depuis tout simplement le 19e siècle, c'est la question de la réhabilitation du travail par l'action du christianisme. Autrement dit, un apport nouveau du christianisme dans la manière de concevoir l'activité laborieuse des êtres humains. Or, quelqu'un qui défend cette idée au 19e, vous avez ça dans le texte 9, c'est Monseigneur Giuseppe Pecci, il est évêque de Perugia, Perugia en Italie, il est évêque et il envoie une lettre pastorale du 6 février 1877, qui est traduite en français à ce moment-là, qui passe dans le domaine francophone. Le travail fut toujours regardé avec mépris, et il l'est encore, là où le christianisme n'étant point son bienfaisant empire. Alors, vous me direz, pourquoi aller prendre Giuseppe Pecci? Parce que ce Giuseppe Pecci, l'année suivante, devient le pape Léon XIII. Et que le pape Léon XIII, c'est celui qui, en 1891, publie la première encyclique d'un pape sur la condition ouvrière, le premier texte pontifical qui tient compte de la révolution industrielle. Quelques mots sur Pecci. C'est un Italien du Lazio et d'une famille rurale. Et il vit dans un pays qui est nettement derrière le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne en matière de révolution industrielle. Seulement, dans sa carrière, Giuseppe Pecci a été nonce apostolique à Bruxelles. Et il a vu en Belgique la révolution industrielle. Et donc, toutes les réalités modernes que l'Italie, et notamment l'Italie centro-méridionale, ne connaît guère, lui les a vues. Et c'est pourquoi il est bien placé en 91 pour publier la première encyclique qui tient compte de la révolution industrielle. Parce qu'il avait compris cela. Or, quand il dit « le travail a été réhabilité par le christianisme », il prend... C'est très très intéressant. Il prend la suite d'auteurs français. Il a bien évidemment accès à des auteurs français, notamment un auteur complètement oublié de nos jours que cite Pecci à l'époque, qui est Franz de Champagny, qui est un historien et apologiste du 19e, qui écrit des livres pour montrer que la véritable révolution dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas la Révolution française, mais que la liberté, l'égalité, la fraternité, ça a été apporté par le christianisme antique dans l'Empire romain. Et cela, ça remonte à un écrivain que, bien entendu, vous connaissez, qui est infiniment plus connu que France de Champagny, son disciple. Je veux parler de Chateaubriand. Parce que si vous prenez le génie du christianisme de Chateaubriand, un ouvrage qu'on a tort de ne plus lire, vous avez une démonstration de ce que le christianisme a apporté à l'histoire de la littérature, à l'histoire de l'art, à l'histoire de la sensibilité. Et Chateaubriand avait publié des études historiques dans lesquelles il expliquait que le christianisme était ce qui avait combattu l'esclavage, donné à la femme une dignité que les païens ne lui donnaient pas et qui avait également réhabiliter le travail. Alors, bien sûr, on peut critiquer les excès apologétiques de Chateaubriand, bien sûr, on peut mettre un certain nombre de nuances, mais ce qui est important, c'est d'avoir eu cette idée, encore parfaitement valable de nos jours, de s'interroger sur ce que le christianisme a apporté. Et c'est là qu'il faut éviter d'avoir des complexes, parce que dans une époque qui a la sottise monumentale, granitique, la sottise de béton armé, de vouloir juger comme un tribunal infaillible toutes les époques précédentes et les condamner au nom de ce qu'elle est, elle, en termes de bien absolu, il y a absolument à retrouver l'apport du christianisme et à ne pas oublier ce que c'est historiquement, ne serait-ce que comme phénomène historique. Alors, s'il y a réhabilitation du travail, en réalité, c'est un peu différent de ce que semble dire Pecci, parce que déjà, Pecci utilise un terme très général, qui est un terme du 19e siècle et qui nous est encore familier, le travail. Pour dire l'ensemble des activités, les dictionnaires nous diront aujourd'hui productrices d'utilité sociale. Voyez, une notion très générale qui fait que toutes et tous, d'une certaine manière, nous travaillons. Hein? Quel que soit le métier, au fond, nous travaillons. Alors que dans l'Antiquité, toute une partie de la population, très minoritaire, mais très importante dans nos sources parce que c'est elle qui produit nos textes, l'élite sociale ne considère absolument pas qu'elle travaille. Elle considère qu'elle s'occupe des affaires de la cité, qu'elle commande les armées, mais il n'est absolument pas question de travailler. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas le sens de l'effort, mais l'effort, on l'investit dans la politique et dans la guerre. Du coup, on méprise, oui, non pas le travail, non pas l'effort, mais celui qui n'a pas assez de terre pour vivre en autarcie, pour vivre en autosuffisance. Et qui donc est lié à autrui par un rapport économique qui crée de la dépendance. C'est ce que vous avez dans mon texte 10 chez Aristote. Hein, Aristote qui est le très grand philosophe qu'on voudra, mais qui est quelqu'un absolument bourré de préjugés sociaux, que ce soit sur la femme par rapport à l'homme, sur l'esclave par rapport à l'homme libre, ou sur le travailleur par rapport au propriétaire terrien. Regardez ce qu'il dit. Il y a une grande différence selon la fin poursuivie dans l'action ou l'étude. La fin, le but. Si l'on agit pour soi, ses amis ou par vertu, ce n'est pas indigne d'un homme libre. Mais celui qui ferait exactement la même action pour d'autres, paraîtrait souvent agir en homme de peine, donc simple travailleur à gage, ou même, c'est encore pire, en esclave. Ce que vous avez ici, c'est une idée absolument typique des aristocraties du monde gréco-romain. Idée face à laquelle nous avons très peu de recul. Pourquoi ? Parce que nous avons toute une culture européenne qui idéalise les Grecs et les Romains. Et qui consiste à ne pas se rendre compte que quand nous disons les Grecs et les Romains, nous parlons toujours de leur couche dirigeante, nous parlons toujours de leurs élites sociales et pas de l'ensemble de la population. Cicéron, alors prenons un Romain, Cicéron est exactement sur la ligne d'Aristote, même si c'est pas un penseur qui suit Aristote. Je vous donne le texte 11, il parle du fait de travailler pour un salaire, pour une rétribution, pour de l'argent que l'on reçoit d'autrui, de quelqu'un d'autre. Et il dit, le salaire est lui-même le gage de la servitude. Auctoramentum servitutis. Et servitus, c'est pas la servitude dans un sens banal, c'est l'esclavage. Ça veut dire, le salarié est un esclave à temps partiel. Dans la mesure où il a besoin de son salaire, il est un esclave. Vous voyez là, le mépris que cette mentalité implique pour le travailleur rétribué. Pourquoi ? Parce que l'idéal, c'est d'être un grand propriétaire terrien qui n'a rien à demander à personne. Ce n'est pas, petite parenthèse, ce n'est pas que l'aristocratie foncière de l'époque de Cicéron ou de l'époque de l'Empire romain des siècles suivants ne pratique pas des activités spéculatives, mais elle les cache. Que fait un grand propriétaire terrien de rang sénatorial aux deux premiers siècles de l'ère chrétienne? Il a des terres. Il surveille plus ou moins l'exploitation de ces terres. Il reçoit ce qu'on appelle, évidemment, en histoire économique, une rente foncière, une rente du sol. Mais à côté de cela, que fait-il? Il fait du commerce. Il fait du commerce sans le dire. C'est-à-dire qu'il utilise des prêtements. Il utilise des affranchis, il utilise éventuellement des esclaves de haut niveau intellectuel. Et comme ça, il se livre à des pratiques spéculatives. Et puis, il fait, mais sans le dire, du prêt à intérêt. Attention, il n'est pas un usurier. Non, non. Il rend service à ses amis. Vous savez, un petit peu comme il est dit dans le bourgeois gentilhomme, oh, votre père n'était pas commerçant. Il n'a jamais été. Non, simplement, il s'y connaissait bien en étoffe. Alors, il en faisait venir de tous côtés et il les donnait à ses amis contre de l'argent. Il les donnait contre de l'argent, mais ce n'était pas un commerçant. Cette manière dont Molière invente un langage complètement trompeur, c'est exactement ce que fait l'aristocratie romaine. C'est-à-dire qu'ils pratiquent l'usure, mais ne se considèrent jamais comme des usuriers et méprisent l'usurier professionnel. Vous voyez, il y a toute une part d'hypocrisie dans le comportement et la mentalité de ces élites. Alors du coup, ça donne, c'est vrai, de leur part à elles, c'est-à-dire d'une infime proportion de la population du monde grec puis du monde romain, mais c'est la proportion que nous connaissons le mieux, ça donne du mépris, y compris pour les grands artistes qui ne sont jamais, au fond, que des artisans. C'est ce que vous avez dans le texte 12, un texte un petit peu humoristique de Lucien de Samosate, un auteur à la charnière du 1er et du 2e siècle de l'ère chrétienne. Si tu devenais un Phidias ou un Polyclète, donc très grand sculpteur grec, et réalisais beaucoup de merveilles, tous feraient l'éloge de ton habileté, mais il n'y aurait pas un homme sensé pour souhaiter, en te voyant, devenir semblable à toi, car si tu étais ainsi, tu ne serais considéré que comme un vil artisan, un travailleur manuel, un homme qui vit de ses mains. Et c'est très mauvais de vivre de ses mains, parce que c'est l'insécurité. Alors que ce qu'il faut, c'est avoir la terre qui donne, elle, la sécurité et qui donne la possibilité de l'autarcie. Alors ça ne veut pas dire du tout que les Grecs et les Romains, de manière générale, méprisaient les artistes. Ça veut dire que les grands aristocrates, eux, pouvaient se permettre de les mépriser. Et donc, la réhabilitation chrétienne du travail est en fait une critique chrétienne de la mentalité aristocratique. Alors c'est ce que vous avez avec saint Basile de Césarée, dans des textes monastiques, nous sommes au IVe siècle, dans l'œuvre que nous avons décidé d'accomplir, la volonté du commanditaire s'impose à nous comme un but vers lequel nous devons diriger notre effort. Et exemple, comme le dit le Seigneur, « Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé le Père. » De même que le forgeron, s'il entreprend de fabriquer, par exemple, une hache, se rappelle celui qui lui en a fait la commande et conduit son œuvre selon la volonté de celui qui la lui a demandé, de même le chrétien, à partir du moment où il dirige toutes ses actions, petites ou grandes, vers la volonté divine, exécute son œuvre avec exactitude tout en gardant le souvenir du commanditaire. Là, vous avez un renversement complet de perspective. C'est-à-dire que, comme exemple de la vie chrétienne, est pris bien évidemment le Christ lui-même, et le Christ lui-même en tant qu'il ne fait pas sa volonté propre. Et donc le chrétien, à l'imitation de son Seigneur, ne fait pas sa volonté propre. Il ressemble donc à l'artisan qui fabrique l'objet qu'on lui a commandé et qui donc dépend d'autrui pour deux raisons, parce que c'est autrui qui lui a fixé un objectif et parce que c'est autrui qui va le rétribuer. La condition chrétienne est une condition dépendante que l'on exprime métaphoriquement à travers la réalité du travail artisanal. Alors, c'est encore plus clair chez un très grand auteur latin, un géant là encore, grand lecteur de Saint Basile de Césarée, Saint Ambroise de Milan. Vous avez un passage que j'aime beaucoup pour ma part, que j'ai souvent essayé de mettre en évidence dans mes propres travaux, parce que c'est un passage qui n'est jamais utilisé. Voici ce que dit Ambroise, et alors faites attention, de tous les pères de l'Église, Ambroise est celui qui a les origines sociales les plus élevées. Il est très vraisemblablement le fils, disons, de l'équivalent d'un premier ministre. Il est de rang sénatorial, c'est un gros propriétaire terrien, avant qu'il n'abandonne ses biens, à un certain moment de son épiscopat, et c'est lui-même un très haut fonctionnaire. Faites très attention, c'est quelqu'un que le peuple de Milan a voulu comme évêque, alors qu'il était gouverneur de la région, et qu'il n'était pas encore baptisé. Les gens l'ont voulu comme évêque, on l'a baptisé en urgence pour qu'il puisse devenir évêque. C'est un très grand évêque et c'est quelqu'un qui connaît parfaitement les comportements de l'aristocratie dont il est issu. Vous voyez, imaginez un évêque français qui serait un ancien dirigeant du MEDEF. J'aimerais bien savoir ce que ça donnerait dans le dialogue avec le monde économique. Ambroise, c'est ça, si vous voulez. Lui, on la lui fait pas. Tous les sénateurs chrétiens à qui il s'adresse, il les connaît parfaitement, il a vécu comme eux et il sait comment ils vivent. Alors, regardez ce qu'il dit à propos tout simplement du journalier agricole. Texte numéro 15. « Paie donc au salarié son salaire. Ne le prive pas du salaire de son labeur, parce que tu es toi-même un salarié du Christ qui t'a conduit à sa vigne et qui a préparé pour toi un salaire dans le ciel. » Ne laisse donc pas le serviteur qui travaille en vérité, ni le salarié qui épuise son souffle. Ne méprise pas le pauvre dont la vie se passe en labeur et qui subsiste grâce à un salaire. Toi-même, tu es sur cette terre un salarié. Donne au salarié son salaire, afin que tu puisses toi-même dire au Seigneur, lorsque tu pries, donne leur salaire à ceux qui te soutiennent. Il faut absolument que nous prenions la mesure de l'importance du problème. Quel est le gros problème du journalier agricole, de celui qui travaille la journée? Faites attention, le salariat est une institution très tardive. Encore au XIXe siècle, quantité d'artisans sont payés à la journée ou à la semaine. Vous avez un texte de Léon Blois dans l'exégèse des lieux communs où l'ouvrier demande au bourgeois de lui payer son travail de la semaine. Et le bourgeois lui répond « Je n'ai pas de monnaie ». Lisez cela, lisez le passage « Je n'ai pas de monnaie » dans l'exégèse des lieux communs du génial Léon Blois. Et vous avez quantité d'autres exemples dans des sources antiques ou dans des sources plus récentes. Le gros problème, c'est que celui qui a passé sa journée, quand il va voir celui pour qui il a travaillé, éventuellement, on lui dit « Ah, je te paierai un autre jour ». Et il se retrouve sans rien. Vous voyez, c'est pas comme dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, parce que le patron, dans la parabole, lui, il paye. Ce qui n'est pas le plus fréquent. Je pourrais vous citer des exemples contemporains. Hein. Quand j'habitais à Rome dans les années 1980, dans un certain nombre de coins d'Italie du Sud, des Africains faisaient comme travailleurs saisonniers des récoltes, hein, et en guise de paiement un certain nombre de fous furieux, hein, les écrasaient en voiture la nuit parce que c'était des gens qui avaient rien et qui dormaient au bord des routes la nuit après avoir travaillé le jour. Et qui étaient les victimes, c'est un nombre de barbares qui profitaient de la nuit, de l'anonymat, de la nuit pour se faire, entre guillemets, quelques Africains sur le bord des routes. Voilà ce qu'était dans les années 1980, à 200 km de la Rome où j'étais à ce moment-là comme chercheur, voilà ce qui arrivait à des travailleurs saisonniers, voyez, dans le monde agricole. Alors, Saint-Ambroise le sait, et il le sait, seulement il ose en parler. Je peux vous assurer, j'ai cherché et j'en ai parlé à la quantité de collègues. J'ai demandé à des collègues spécialistes de l'Antiquité ici ou là, cite-moi un texte où un auteur se préoccupe de la condition du journalier agricole. De même, il y a un texte chez Ambroise où Ambroise dit que les grands propriétaires sacrifient des gens à qui ils font faire des travaux dangereux et les gens se tuent lors du travail. Et j'ai posé la question à des quantités de spécialistes, amis, je leur ai dit, trouve-moi un texte grec ou romain qui parle des accidents du travail, qui met en évidence la réalité des accidents du travail. Jamais on n'en a trouvé, et j'ai sorti un texte d'Ambroise. Tu connais ça? Et on m'a dit, un texte qui parle enfin. De même, quel est le texte qui parle, et du point de vue féminin, des violences conjugales. Un passage des Confessions de Saint-Augustin. Vous voyez, c'est très curieux. Il y a des réalités humaines que seuls les auteurs chrétiens ont abordées. Ça en dit très très long sur cette originalité du christianisme. Et alors, remarquez l'argument. L'argument, c'est pas parce que tu es un riche propriétaire, tu dois tenir ton rang, tu dois te montrer généreux. Non, non, c'est parce que toi, tu as besoin du Christ comme ton salarié a besoin de toi. Autrement dit, on met le propriétaire dans une situation de dépendance ontologique spirituelle pour lui demander de bien respecter tout simplement son salarié. Alors oui, le parallèle, je dois le faire avec le texte 13. Je dois revenir un petit peu en arrière et voir le texte 13, qui est le texte d'un professeur de rhétorique païen fameux du IVe siècle. Et voici ce que dit le texte 13 au jeune homme cultivé, évidemment, de bonne famille. « Que jamais un artisan ne soit maltraité par un garçon qui s'est adonné à la culture. Que ce garçon vive en paix avec ces gens-là et ne se rende jamais indigne des louanges de ceux qui gagnent leur pain par le travail de leurs mains. Si l'un d'eux lui a adressé quelques paroles offensantes, qu'il le supporte. Il montre par là même toute la distance qu'il y a entre un homme de la rue et un garçon qui a reçu l'honneur d'être initié à Hermès, c'est-à-dire d'avoir de la culture. » Autrement dit, voyez la différence. Libanios païen dit « Sois aimable avec le pauvre type qui gagne sa vie de ses mains, parce que comme ça tu tiens ton rang. » Concept très important en sociologie, la distance sociale. C'est très important de marquer sa distance sociale, éventuellement en flanquant l'argent par les fenêtres. Hein. On paye pour la tournée pour tout le monde, on marque sa distance. On fait quelque chose de généreux pour les autres, mais on montre qu'on est au-dessus d'eux, que soi-même on a les moyens. Or, Ambroise, lui, ne dit pas « c'est parce que tu es supérieur que tu dois respecter l'inférieur », il dit « c'est parce que toi-même, tu es inférieur à ton Seigneur et que tu voudras un jour ton salaire dans le ciel. » Vous voyez la différence de perspective, ce qui est typiquement chrétien, ce qui nous renverrait à quantité de passages de l'Évangile. Et alors Augustin nous dit, à ce sujet-là, c'est le texte 16, « La véritable honnêteté, je vous ai mis le mot latin parce qu'il est important, « honestas », ne réprouve pas ce que réprouve l'orgueil de ceux qui aiment à passer pour honnête sans se soucier de l'être en réalité. » L'apôtre Paul n'aurait donc pas dédaigné d'entreprendre quelque travail des champs, ni de s'appliquer à une occupation d'artisan. Alors ça, c'est un texte qui s'appelle « Le travail des moines ». C'est un texte tout à fait extraordinaire, parce qu'Augustin est confronté à des moines qui sont en Afrique, qui sont à Carthage, et qui, selon une tradition venue d'Orient, qui est l'une des traditions du monachisme du IVe siècle, ne foutent rien. C'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'ils priaient tout le temps, et donc qu'il fallait qu'on les aide, qu'ils n'allaient quand même pas se mettre à travailler, ni même à prêcher, hein, peu importe, ils prient tout le temps. Et Augustin leur dit non au boulot. Parce que l'apôtre a travaillé, parce que ailleurs il y a des moines qui travaillent, parce que les moines qui suivent l'exemple de Saint Valisile travaillent, après il y aura Saint Benoît, vous voyez, il y a toute une tradition du travail des moines. Mais il y a aussi une ancienne tradition de rien foutre, hein, qui existe encore un petit peu dans certains endroits en Orient. Et Augustin attaque cette pratique, et il attaque l'honestas. Alors, honestas, faites très attention, c'est un terme qui désigne à la fois l'honorabilité social et l'honnêteté morale. Et ça, c'est le propre de l'idéologie, c'est de confondre le social et le moral. Vous voyez ? Des gens bien, des gens comme nous, comme disait la grand-mère de mes camarades de Normale Sud. Des gens bien, des gens comme nous. Vous voyez ? Les gens bien. Les gens bien, c'est-à-dire les gens qui sont bien socialement et moralement. Les deux étant confondus. Les deux étant liés. Et ici, Augustin se moque de cela en disant la vraie honnêteté, ce serait l'honnêteté morale et ce n'est pas l'honorabilité sociale. Alors, j'en viens à un autre problème de ces réalités du travail, c'est la question de la responsabilité individuelle. Et alors, je commence par vous citer un texte qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé il y a pas mal d'années, qui est un texte mystérieux, c'est un texte anonyme, qui s'appelle « L'Opus Imperfectum in Matteum », c'est-à-dire le commentaire inachevé de l'Évangile selon Matthieu. Et qui est un texte certainement d'un arien, donc d'un hérétique, qui vit dans une petite minorité et qui a des points de vue extrêmement radicaux et qui sont délicieux parce qu'ils sont d'une telle teneur caricaturale qu'ils sont très significatifs. Vous vous rappelez, le roi qui invite aux noces et il y a des gens qui ne viennent pas. Parce que l'un va à sa villa, à sa ferme, et l'autre va à son négoce. Alors immédiatement, le commentateur prend ces deux termes et dit « Toutes les activités que les hommes accomplissent en ce monde sont de deux sortes, ou bien la ferme, villa, ou bien le négoce, négociatio. » Donc, classification rigide, binaire, voyez, on oppose bien. « Quand nous faisons un effort avec nos mains, en nous appliquant à la terre, ou quelque travail de la terre, comme par exemple celui du champ, de la vigne ou du jardin, ou un travail du bois et du fer. Il y a la matière transformée, donc l'artisanat est compté comme de l'agriculture. Nous cultivons la ferme, c'est-à-dire la terre. C'est matériel, c'est bon. En revanche, quand nous recherchons un gain, non par l'effort de nos mains, mais par quelque autre moyen, par exemple en remplissant des charges officielles pour veiller sur les richesses de quelqu'un, ou en faisant du commerce, tout cela s'appelle le négoce. Donc, grande catégorie englobante. L'évangéliste a renfermé tout le travail humain, soit honnête, soit malhonnête, en deux mots. La culture de la ferme est un travail honnête, le travail du négoce est malhonnête devant Dieu. Alors, ce type de classification a eu un certain écho dans le haut Moyen-Âge, parce que ce texte-là, l'Opus Imperfectum in Matteum, a été pris pour un texte de Saint Jean Chrysostome, pour une version latine d'un commentaire de Matthieu par Saint Jean Chrysostome, et du coup, ça a un certain écho, hein. Je ne suis pas médiéviste, mais ça a tout un écho dans la tradition médiévale. Et alors, vous voyez, ça, c'est de même nature que les discours aristocratiques sur l'ouvrier qui est méprisable et le propriétaire qui est honorable. C'est-à-dire que ce sont des catégories, ce n'est pas la personne qui compte, c'est ce qu'elle a comme occupation, comme fonction habituelle. Et ça, c'est par exemple ce que critique Augustin. Et Augustin critique, on aurait cela aussi chez Ambroise, Augustin critique, eh bien, cette activité qui est vantée par toute cette littérature élitiste de l'Antiquité grecque et de l'Antiquité romaine, l'agriculture. Vous savez, on a même ça dans un des discours du maréchal Pétain, écrit au demeurant par le grand Emmanuel Berle, qui n'était pas n'importe qui, « La terre qui ne ment pas ». Mais ça, c'est déjà chez Xénophon. C'est déjà dans l'Antiquité, c'est l'idée. Le paysan, l'agriculteur, le propriétaire terrien, il est en rapport avec la nature. Et donc, il est parfait parce que la nature est juste. Voyez. Alors Augustin dit, déjà dans un commentaire sur un psaume, « Prenez garde, frères bien-aimés, aux fleuves de Babylone, les fleuves de Babylone, ce sont toutes les choses que nous aimons ici-bas et qui passent. Voilà quelqu'un qui a aimé, par exemple, regardez l'exemple qu'il prend, pratiquer l'agriculture, s'enrichir de cette façon, y occuper son esprit, en tirer du plaisir, qu'il prenne garde à l'issue de tout cela, qu'il ouvre les yeux. Ce qu'il a aimé, ce ne sont pas les fondations de Jérusalem, mais un fleuve de Babylone. Hein, le risque d'aimer trop son travail. Voyez, au fond, l'idée qu'on peut être un maniaque de son travail, en l'occurrence du travail agricole, qui présente, Augustin le dit ailleurs, on a vu le texte, qui présente beaucoup d'avantages, et ça peut être un piège. Ou encore, dans le commentaire sur le psaume 70, et ça c'est absolument hilarant, je dirais, parce que ce sont des textes hilarants quand on les met en perspective, parce qu'ils contredisent tout ce que les élites gréco-romaines écrivent depuis des siècles. Et c'est ça qui est très, 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 très amusant. Augustin, dans le psaume 70, fait une chose qui est très typique de lui. Augustin est un auteur très drôle, plein d'humour, hein, contrairement à ce que s'imagine un certain nombre de gens qui ne l'ont pas lu, et puis qui ont, nous avons cette infortune en France d'avoir eu le jansénisme, et qui a noirci la figure d'Augustin d'une manière qui pèse encore de nos jours. Or, Augustin fait quelque chose de très amusant dans le commentaire sur le psaume 70. Il imagine un commerçant en train de lui parler. Il fait parler un commerçant dans son sermon. Les sermons de saint Augustin sont très vivants. En fait, attention, c'est vraiment très vivant. Quelquefois, c'est interactif. Augustin fait participer les gens. Où il dit, ah là, attention, n'est-ce pas, vous pensez au passage de l'évangile que je vais citer, vous savez ce que c'est. Et les gens répondent parce que les gens connaissent leur évangile. Hein, vous voyez, il faut faire très attention, cette littérature est vivante. Alors, Augustin imagine que le commerçant lui dirait ceci, texte numéro 19. Dans quel but cherches-tu à me détourner du négoce pour que je devienne agriculteur et murmure contre Dieu quand il fait retentir le tonnerre? Pour que, par crainte de la grêle, je consulte un sorcier afin de savoir quoi faire contre le ciel? Vous voyez, l'agriculteur chrétien qui se dit « Oui, Dieu sait très bien, mais tel magicien qui m'a promis une protection pour ma vigne ou pour mon champ de blé, c'est peut-être plus sûr. » Et ça, Augustin et les pères de l'Église le combattent sans cesse. Les pratiques magiques chez les chrétiens. Vous avez ça en Gaule chez Césaire d'Arles, qui imite beaucoup Augustin. Et puis, autre défaut de l'agriculteur qu'Augustin ose dire, « Pour que je souhaite aux pauvres la famine, dans l'idée de vendre ce que j'aurais stocké. » Alors, vous avez là quelque chose de capital. C'est la spéculation sur les denrées agricoles de première nécessité. Vous savez très bien que le blé va augmenter, on est face à des problèmes avec la mauvaise qualité de certaines récoltes de blé. Enfin bon, c'est un problème de chaque année dans l'Antiquité. Et que ce soit en Égypte ancienne, en Grèce, dans le monde romain, on spécule sur le grain. Par exemple, on cache sa récolte, on met tout dans les greniers. Et puis, on demande à ses esclaves, à ses serviteurs, de parcourir les environs en disant « La récolte est très mauvaise, ça va être la disette, on va crever la dalle !» Alors à ce moment-là, quand les gens commencent à avoir la panique, sur le marché, le propriétaire sort une partie de sa récolte et dit « Ah ouais, mais attention, c'est cher !» Comportement spéculatif, qui est dénoncé notamment, j'ai pas mis le texte parce qu'il serait trop long, il est magnifique, mais il y a un texte magnifique d'Ambroise de Milan qui dénonce la spéculation frumentaire. Et bien là, vous avez ça chez Augustin. Alors attention, c'est très important, parce que dans toute la littérature gréco-romaine, dès qu'il est question de spéculation frumentaire, elle est pratiquée par des commerçants. C'est très curieux, il n'y a jamais que les intermédiaires qui sont coupables. Les agriculteurs, ils sont toujours la pureté totale. Les seuls auteurs qui parlent de spéculation frumentaire faite par les producteurs et pas par les intermédiaires, ce sont des auteurs chrétiens. Vous voyez, quand on dit « Mais qu'est-ce que le christianisme a apporté ?» Eh bien, par exemple, ça, dire la vérité sur les comportements spéculatifs qui sont masqués pas un grand discours sur la terre qui ne ment pas, la terre qui est juste, moi qui vis avec la terre, etc. Il y a des textes d'Ambroise tout à fait passionnants, j'ai pris celui d'Augustin parce qu'il est plus bref, plus utilisable. Et là encore, le commerçant d'Augustin continue. Vous voyez très bien les clichés, enfin, nous connaissons ces clichés. Hein. Les commerçants, c'est tous des voleurs, les flics, c'est tous des brutes, les fonctionnaires, c'est tous des fainéants, etc. Vous voyez, tous ces clichés qui vont varier selon les milieux sociaux, d'accord, qui font qu'on attaque une profession, on ne s'occupe pas des individus. Alors regardez ce que dit Augustin quand il continue à faire parler le commerçant. Mais il est question de mensonges, de parjure. C'est là mon défaut, pas celui du commerce. Car il n'est pas vrai que, même en le voulant, je ne pourrais pas vivre sans ce défaut. Je ne reporte donc pas ma faute, moi qui agis sur le négoce. Si je mens, c'est moi qui mens, pas le négoce. Exhorte-moi donc, il parle à l'évêque, exhorte-moi donc, toi qui es évêque, à ne pas mentir, à ne pas me parjuger, parjurer, pas à abandonner le négoce dont je vis. Et vous voyez ici, ce qui advient historiquement, c'est la priorité donnée à la responsabilité individuelle. Tu fais tel métier ? Ce métier n'est pas malhonnête en soi. À toi d'être honnête. Ce qui peut naître ici, et ce qui est en train de naître, c'est une éthique professionnelle différenciée. De pouvoir dire aux gens, il y a une manière chrétienne de pratiquer votre métier. Il n'y a pas des bons et des mauvais métiers. Bon, ce qui est exclu, c'est le proxénétisme, la prostitution, la gladiature. Hein, donc tout ce qui relève de la débauche ou du meurtre. Hein, le gladiateur étant quelqu'un qui tue autrui. Mais à part ça, voyez, ce sur quoi jouent les pères de l'Église, c'est la responsabilité individuelle, et ça, c'est une grande conquête. Enfin, il est question d'analyser des mécanismes, et ça, c'est très important. Parce que la plupart des gens imaginent le discours chrétien comme un discours purement moralisant, c'est-à-dire « faites ceci, faites pas cela », et comme quelque chose qui relève de la dénonciation et pas de la réflexion. Quelquefois, d'ailleurs, le mauvais niveau de certaines prédications entraîne les gens à croire cela. Mais un sermon, c'est comme un cours, ça se prépare, ça se bosse. Il s'agit de savoir bosser, c'est tout. La grande chose que j'ai apprise au cours de ma carrière, c'est qu'on a quelque chose à dire quand on a bossé. Et que, qu'on le veuille ou non, il faut bosser. Et que un bouquin, un article, une conférence, d'une certaine façon, un minimum, ça se prépare. Et les pères de l'Église réfléchissent. Par exemple, Ambroise, c'est mon texte 21, dans le Surtobie, critique l'usure. Mais attention, il ne dit pas « Ah, l'usure, c'est affreux, ah, les pauvres débiteurs, ah, les méchants créanciers. » Ce n'est pas un discours de dénonciation, c'est un discours d'analyse. Alors regardez ce que ça donne. Il analyse tout le processus par lequel des fils de famille s'endettent auprès d'autres propriétaires et finissent par perdre ce que leurs parents leur avaient légué. Regardez ce que ça donne. C'est Ambroise de Milan. Nous accusons le débiteur parce qu'il s'est conduit avec trop d'imprudence. Bon, déjà, le débiteur n'est pas une victime innocente. Il aurait dû faire gaffe. Mais il n'y a rien de pire que les usuriers qui voient dans les ennuis d'autrui des gains pour eux-mêmes et qui considèrent comme une perte pour eux tout ce que d'autres possèdent. Ils guettent les nouveaux héritiers. Ils se servent de leurs relations pour épier les jeunes gens riches. Ils se rapprochent de ceux-ci sous le prétexte d'une vieille amitié avec leur père. Ils s'enquièrent de leur situation patrimoniale. S'ils trouvent ainsi quelques prétextes, ils reprochent aux jeunes gens leur retenue, ils blâment leur pudeur parce qu'ils ne se sont pas adressés à eux plus tôt et n'ont pas compté sur eux. Si au contraire, ils n'ont pu les prendre dans les filets de quelque nécessité, ils inventent des histoires. Ils disent qu'un noble domaine est en vente, qu'il comporte une vaste demeure. Ils en vantent le produit des récoltes. Ils en exagèrent les revenus annuels. Ils poussent à l'achat. Ils font de même en annonçant des habits précieux et des joyaux de luxe. À qui dit ne pas avoir d'argent, ils proposent le leur. Fais comme si c'était le tien. La propriété acquise te rapportera plus qu'elle ne t'aura coûté. Et tu paieras ta dette. Il montre à un jeune homme les domaines d'autrui afin de le dépouiller des siens. Vous voyez, si vous prenez l'ensemble du De Tobias, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toute une analyse de la société de son temps. C'est-à-dire que Ambroise ne nous représente pas seulement des débiteurs qui sont des pauvres. Il nous représente des débiteurs qui sont des jeunes héritiers sans expérience, et qui, en s'endettant, finissent par devoir abandonner leur propriété à un plus grand propriétaire. Et au fond, ce qu'analyse Ambroise, c'est une concentration de la propriété foncière au profit d'une minorité de familles, cependant que toute une partie de la classe des propriétaires se trouve ruinée par l'endettement. Autrement dit, vous avez une analyse de même que vous avez des considérations d'Ambroise sur l'utilité des agriculteurs pour la société et le fait de devoir les protéger. C'est-à-dire que vous avez un réalisme économique. Et il faut faire très attention à tous les clichés dont certains auteurs sont coutumiers et spécialistes qui veulent toujours présenter toute tentative de discours éthique des chrétiens dans le domaine économique ou social, comme sans aucune prise sur la réalité. Et ça, c'est une grande spécialité d'un certain nombre de milieux, de dire « l'Église nous emmerde, elle n'a pas à s'occuper d'économie et de société ». Or, je regrette, c'est ce qu'elle fait depuis 2000 ans. Et d'une manière parfaitement continue. Alors, une des difficultés, justement, c'est que les mécanismes, et ça c'est un problème que certaines et certains d'entre vous connaissent beaucoup mieux que moi, de par leur activité économique, de par leur activité professionnelle, de par leur situation dans le monde du travail, c'est la complexité. C'est-à-dire qu'au fond, la complexité du système économique rend le discours éthique plus difficile. C'est ce qu'avait vu dès la fin du 19e siècle le très grand sociologue, économiste, historien Max Weber, dont je vous cite un passage peu connu dans un article où précisément Weber, qui a fréquenté des groupes de chrétiens sociaux de confession protestante, Weber a été amené à leur expliquer « Attention, c'est très difficile de faire une éthique chrétienne de nos jours parce que c'est très compliqué. » Alors regardez ce que dit Weber, c'est mon texte 22. « Les caractéristiques de l'évolution... » La caractéristique de l'évolution moderne est le déclin des rapports personnels de domination comme fondement de la structure du travail et avec eux des conditions subjectives et psychologiques de la dépendance de la classe dominée, raisons accessibles à une interprétation et à une modification religieuse et éthique. Mais l'évolution moderne lui substitue de plus en plus la domination impersonnelle de la classe des possédants et élimine ainsi la possibilité de concevoir d'un point de vue éthique et religieux le rapport des dominants aux dominés. Cette difficulté que souligne Weber, il me semble qu'elle a déjà, d'une certaine manière, été prise en charge par Ambroise de Milan, puisqu'il voit des mécanismes complexes au lieu de simplement hurler sur l'appauvrissement des débiteurs. Et puis ça nous renvoie, et c'est pourquoi j'ai mis un texte beaucoup plus récent, ça nous renvoie à cette notion qui joue un rôle dans la pensée sociale de Saint Jean-Paul II de structure de péché. Où justement on a bien autre chose que des considérations sur les individus et des considérations sur des relations interpersonnelles ou interindividuelles. Et je vous cite l'encyclique qui célèbre le centenaire de Rerum Novarum, Centesimus Annus, paragraphe 38, c'est la traduction qui est en ligne sur le site du Vatican. Les décisions, grâce auxquelles se constitue un milieu humain, peuvent créer des structures de péché spécifiques qui entravent le plein épanouissement de ceux qu'elles oppriment de différentes manières. Démanteler de telles structures et les remplacer par des formes plus authentiques de convivialité constitue une tâche qui requiert courage et patience. Vous voyez bien la perspective au fond d'un travail de très longue haleine. J'essaie donc de vous proposer quelques réflexions conclusives. Je voudrais d'abord souligner cet indéniable apport du christianisme qu'il ne faut absolument pas laisser sous-estimer. Et il faut arrêter avec les complexes qui étaient très forts dans ma génération et dans les générations qui ont précédé la mienne, chez certains aumôniers qui nous racontaient combien il était pénible d'être chrétien et de porter tout le terrible passé de l'Église, alors que l'Église, justement, a une pensée sociale et un apport économique. J'ai essayé de vous montrer cet apport, réhabilitation de la dépendance, un nouveau regard sur l'infériorité, en lien avec la condition chrétienne, qui est une condition dépendante, Augustin disant « Tu nous as fait pour aller vers toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Hein » C'est dans la première page des Confessions de saint Augustin. « Et in quietum cor nostrum, donec requiesca in te. » Une dépendance de l'être humain. Il a besoin de Dieu. Donc, il n'y a pas d'autarcie humaine, donc l'autarcie économique serait une incarnation. Et puis, il y a cette prise en charge de l'infériorité, parce qu'il y a le lavement des pieds, parce qu'il y a la passion de Jésus. Et vous savez très très bien ce que cela signifie dans le christianisme, que de savoir faire attention à l'enfant à naître, ou au malade, ou au mourant. Et là, vous le savez, il y a des enjeux brûlants. C'est-à-dire que quand recule un certain apport du christianisme, ce qui se profile avec un sourire, c'est l'horreur. Nous sommes l'époque de l'horreur souriante, comme il y a eu, selon André Glucksmann, le père de l'autre, selon André Glucksmann, la barbarie à visage humain. Nous sommes une époque où l'on commet les horreurs au nom du progrès, plus au nom de la race, ou ceci, cela, mais au nom du progrès, et où on valorise l'horreur comme quelque chose de beau et de libérateur. Apport chrétien de la responsabilité individuelle, possibilité du coup d'une morale professionnelle. Augustin, Ambroise, les autres ont fait de la direction spirituelle. Nous avons des lettres de direction spirituelle d'Augustin à des officiers où il explique comment on est un officier chrétien. C'est pas ne plus être officier, c'est pas possible. C'est comment tu peux être un officier chrétien. On a des lettres, hein, je les ai traduites, retraduites, je vais les publier dans un livre dans quelques temps, j'espère. Et puis, nous voyons qu'il y a une sagesse chrétienne qui est dans l'observation. Donc, à partir de cet apport, eh bien, à nous d'en faire autant. Nous avons une tradition de morale sociale et économique, à nous de bosser, de connaître cette tradition, ben, nous sommes ici pour ça, d'observer, d'étudier le présent. En étudiant, à nous d'avoir le courage des pères, c'est-à-dire de dire ce que nous avons à dire, et nous savons très bien que ce n'est pas facile, que le contexte peut être terrible, que la pression majoritaire peut être très forte. Et je voudrais terminer sur une expression qui est ce que j'appelais déjà quand j'avais 20 ans, pardonnez-moi de sortir un souvenir, mais c'est une expression intéressante au fond, c'est ce que j'ai longtemps appelé dans ma vie la solution chrétienne. J'avais tendance à dire à mes camarades d'études, mais de toute façon, face à tous ces problèmes, il y a la solution chrétienne, le christianisme comme solution. Et puis un jour, assez récemment, chez un très grand historien catholique du siècle dernier, mais qui est surtout connu dans le monde anglophone, Christopher Dawson, il y a cette idée « the Christian solution ». Il y a une solution chrétienne, il y a la solution chrétienne pour les sociétés. C'est à cela que je voudrais vous inviter à réfléchir, et vous comprenez donc qu'on a du pain sur la planche, et que mes mots, mes pauvres mots, voudraient tout simplement nous inviter à l'action.
On a un peu de temps pour des questions. Je vais ouvrir le bal comme ça, ça mais pas beaucoup, hein, mais un petit temps de questions. Peut-être une question assez simple, qui venant d'un prédicateur n'est pas totalement innocente, c'est que cette prise de conscience d'un certain nombre de mécanismes économiques, cet intérêt pour la réalité du travail, la réalité concrète, la responsabilité individuelle, elle est dans les textes d'évêques, de prédicateurs. Jusqu'à quel point est-ce que ça mord sur la réalité des communautés chrétiennes, du christianisme antique? C'est-à-dire, est-ce que à la limite, moi je peux prêcher des tas de choses et je suis pas sûr que ça change la face de la terre immédiatement? Étant dominicain, j'y crois un peu, mais enfin. Donc, est-ce que les gens qui écoutaient Saint-Augustin, Saint-Ambroise, etc., est-ce que fondamentalement, ça modifie insensiblement, progressivement, la structure de l'économie, la manière de concevoir le travail, etc. Ou est-ce que ça reste, si je puis dire, un discours d'une élite cléricale qui pisse dans un violon, pour le dire de manière triviale?
Il me semble qu'il faut distinguer deux choses. Il y a la prédication, et la prédication a évidemment ses limites, comme elle est aussi quelque chose de très fort, et loin de moi l'idée de la dévaluer. Je ne crois pas que la parole publique puisse être sans aucun effet, même si elle n'a peut-être jamais autant d'effet que le voudrait le prédicateur lui-même. Deuxième partie de ma réponse, il y a toute la direction spirituelle qui accompagne la prédication. C'est-à-dire que ces évêques, ce sont des gens qui écrivent des lettres aussi, qui rencontrent les gens, et il y a tout le travail des confesseurs dans l'histoire. Donc il y a le travail des aumôniers. Enfin, il faut que nous soyons conscients de ces moyens dont dispose l'Église pour accompagner les gens. Alors, enfin, il y a des expériences qui sont très retentissantes, qui sont les expériences de conversion, notamment à l'idéal ascétique ou monastique, qu'on a au IVe siècle. C'est-à-dire des gens qui abandonnent tout, on en a, des aristocrates qui se mettent à vivre sur un pied d'égalité avec les esclaves, leurs esclaves, on en a. Hein. Et il y a cette réalité tout à fait particulière qui apparaît à cette époque-là et qui est extrêmement féconde, qui est la réalité monastique. Donc, je dirais, ne sous-estimons surtout pas, sauf que, comme dit saint Jean Chrysostome, il faut sans cesse recommencer, et il y a, dit-il, cette chaîne d'or de génération en génération de prédicateurs qui recommencent toujours le boulot. Et je crois que nous devons humblement nous dire que notre boulot de chrétien se poursuivra toujours aussi fatigant de génération en génération jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne.
Merci beaucoup pour cette belle conférence. J'aurais une petite question concernant l'esclavage. Il y a cette belle lettre à Philémon où Freud exprime son amour pour ses esclaves qui doivent retourner chez son propriétaire, mais il passe comme une vraie critique du système de l'esclavage. C'est à partir de quel moment qu'on peut voir cela peut-être aussi chez les auteurs chrétiens? Une remise en question de ce système économique basé sur l'esclavage.
Alors, je n'ai pas parlé de l'esclavage, et exprès, parce que je ne voulais pas qu'on soit trop fixé sur l'Antiquité et sur des phénomènes très spécifiques. Paul a fait essentiellement une chose, qui a été d'améliorer les relations entre maîtres et esclaves. Il a fait exprès, semble-t-il, on le voit par certains passages, de se limiter à cela. Je pense, c'est une hypothèse que j'ai moi-même publiée, qui vaut ce qu'elle vaut. Je pense que Paul voulait éviter de donner l'impression que le christianisme était simplement un mouvement social, un mouvement de libération sociale. Alors, ce que l'on a dans le Nouveau Testament, c'est essentiellement des textes qui veulent que les maîtres et les esclaves aient des rapports fraternels. à la fois pour que l'esclave fasse son salut en tant qu'esclave et que le maître fasse son salut en tant que maître, car le maître cruel compromettrait son salut et l'esclave peut trouver une progression intérieure dans le fait même d'être obéissant d'une manière désintéressée et d'après sa conscience, comme dit Paul. Alors c'est plus tard, avec une certaine maturité de la pensée chrétienne, au IVe siècle, sur lequel j'étais beaucoup, donc avec Grégoire de Nyssa, avec saint Augustin, plutôt début Ve, qu'il y a une véritable critique de l'institution esclavagiste, notamment à partir de Genèse 1:26, où Dieu place tous les animaux sous la domination d'Adam. Et Grégoire de Nyssa, comme Augustin, disent « Attention, regardez, Dieu n'a jamais placé un être humain sous la domination d'un autre être humain. Donc, l'esclavage n'est qu'une conséquence du péché originel. Et il est quelque chose qui, théologiquement, ne se justifie pas. Maintenant, arriver à sortir du système esclavagiste, ça c'est beaucoup plus compliqué. » Voilà, pour vous répondre très très brièvement sur un problème immense, mais j'ai préféré parler du travail libre parce que ça ressemble plus à notre temps.
Oui, merci beaucoup pour votre conférence, c'était vraiment passionnant. J'avais une question sur... Vous avez parlé de ces obligations qu'il faut faire. Mais vous êtes passé très vite sur la règle de Saint-Benoît, au règle d'Aborat, qui, à mon sens, est quand même un exemple de ce que, en tant que chrétien, une organisation humaine peut faire entre l'équilibre, entre la prière et le travail, avec, tu verras, le travail de tes mains. Et donc, j'aurais bien aimé quelques mots sur d'où venait cette intuition de Saint-Benoît, comment est-ce que dans toute la communauté monastique à travers le monde ça a pu développer des entreprises parce que chaque monastère a développé des activités qui leur ont permis de vivre par le travail de leurs mains, mais en n'oubliant pas la prière.
Alors c'est vrai que c'est très important. Je n'ai pas voulu me centrer là-dessus parce qu'on a beaucoup tendance en histoire à focaliser sur les milieux cléricaux ou les milieux religieux et pas assez sur l'ensemble de la population chrétienne. Mais j'ai un peu fait allusion à Basile. Basile encourage le travail, donc c'est un fondement oriental du travail monastique. La règle de Saint-Benoît n'est pas la seule à son époque à prôner le travail et elle a joué un rôle énorme effectivement en Occident. Augustin parle aussi du travail. Il y a une tradition très forte qui est typiquement occidentale du monachisme qui applique du travail et avec des tas de conséquences. Des tas de conséquences qui vont beaucoup plus loin que l'époque antique en termes d'invention, parce que dans le monachisme, il y a l'idée aussi qu'on peut gagner du temps sur le travail pour la prière, justement, d'où certaines innovations techniques qui se font plutôt dans les milieux monastiques que dans les milieux laïcs, dans les milieux séculiers. Vous voyez, il y a toute une histoire du travail monastique. Simplement, je vais les laisser un peu de côté parce que c'est ce dont on parle le plus souvent. Si vous voyez, moi, j'ai travaillé pendant des années sur le travail. Dès que vous cherchez de la bibliographie sur les chrétiens et le travail, vous vous retrouvez avec 4/5 de titres sur les moines. Et ceux qui ne sont pas moines sont beaucoup moins étudiés. Du coup, c'est vrai, j'ai tendance à essayer d'un peu rééquilibrer les choses, mais l'importance de la règle de Benoît est énorme. Alors, elle est énorme, surtout plus tard, à partir du 8e, 9e siècle. C'est un autre saint Benoît, c'est Benoît d'Agnan, qui diffuse la règle de Benoît de Nursie en Occident. À l'époque même de saint Benoît, sa règle n'a pas eu l'importance qu'elle a eu plusieurs siècles plus tard et après de manière définitive jusqu'à nos jours. Et effectivement, elle contient toute une doctrine du travail, avec notamment l'idée que l'otiositas, l'oisiveté, est ennemie de l'âme. Alors faites juste attention à une chose, ora et labora est une formule bénédictine du 19e siècle, ce n'est pas une formule de saint Benoît. On cite toujours ça, parce que Benoît ne fait pas reposer la vie monastique sur deux choses. Il la fait reposer sur trois choses. La prière, le travail et la lectio divina. Le ora et labora, c'est un slogan, si j'ose dire, du 19e. Vous voyez, c'est juste un petit point de détail. Faites attention au latin. On a tendance à citer des formules latines qui sont en fait récentes, en croyant qu'elles sont antiques sous prétexte qu'elles sont en latin. De même, si vous voulez qu'un certain nombre de livres de théologie déjà un peu anciens sont bourrés de latin, qu'on prend pour du latin de saint Thomas et qui n'est absolument pas chez saint Thomas quand on va vérifier. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu toute une habitude dans les séminaires de résumer du saint Thomas dans un latin ecclésiastique du 19e, du 20e siècle, et après on croit... Je me suis fait avoir une fois, si vous voulez. Je suis tombé chez un grand dominicain prétendument spécialiste de saint Thomas, et je suis tombé sur deux très belles formules latines, je me suis dit « c'est merveilleux ça », et puis quand j'ai cherché dans la somme théologique, il n'y avait pas ces formules latines, il y en avait d'autres. Et qu'il fallait que je reprenne et que je tâche de travailler. Donc voilà, c'est juste quelques petites précautions.
Merci pour votre réponse et votre exemple qui aussi nous donne accès à un texte très riche. Vous êtes centré sur le christianisme, je ne vous le reproche pas du tout évidemment, mais beaucoup de vos textes font référence à une tradition biblique qui n'est pas que chrétienne, mais judéo-chrétienne. Et donc, vous parlez de la solution chrétienne, des solutions chrétiennes en tout cas, il y en a qui ne le sont pas certainement, mais est-ce qu'il y a simplement un nouveau chrétien ou est-ce qu'il est aussi juif ? Est-ce que vous voyez une différence entre la tradition déjà vétérotestamentaire du point de vue du travail et y aurait-il une spécificité chrétienne du fait de l'incarnation ? J'imagine le fils de l'homme qui travaille, ça a dû marquer évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà une conception du travail chez les Juifs qui aurait marqué une différence par rapport à l'Antiquité, pas simplement dans les textes de Bédé, mais aussi dans, je dirais, la sociologie du peuple de Dieu.
Oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de différences déjà, et notamment, il y a une réalité concrète très importante qui est celle du travail manuel d'un certain nombre de rabbins et de la condition sociale d'un certain nombre de savants juifs. Alors, le fait que Jésus travaille de ses mains comme charpentier, le fait que Paul travaille de ses mains, c'est tout à fait en harmonie avec un certain nombre de cas que nous avons de rabbins qui sont des travailleurs manuels, qui sont des artisans. Max Weber, je le cite de nouveau, a écrit un très beau livre sur le judaïsme antique. Et il étudie les pharisiens. Et c'est très intéressant dans le judaïsme de voir que ceux qui vont le plus loin dans la science juive, ce sont les pharisiens qui ne sont pas l'aristocratie sacerdotale des sadducéens. Et Weber a une expression très 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 curieuse, il parle d'intellectualisme prolétaroïde. C'est-à-dire que les pharisiens sont des intellectuels qui sont capables de travailler de leurs mains. Ils ont les caractéristiques du prolétariat plus les caractéristiques intellectuelles d'un milieu purement intellectuel. Donc là, effectivement, vous avez mille fois raison, il y a une nouveauté juive.
Du judaïsme antique, parce que si on regarde le judaïsme contemporain, il y a effectivement des yeshivas où on n'en joue pas
mieux. Tout est possible, en fait, parce que les êtres humains sont très forts pour interpréter dans quantité de sens les textes. Hein. Quand vous avez des rabbins ou des chrétiens d'ailleurs, qui disent « la Bible dit tout et le contraire de tout », ça veut dire qu'ils arrivent à lui faire dire tout et le contraire de tout. Elle a une cohérence, en fait, que nous savons en tant que chrétiens. La cohérence de la Bible, c'est Jésus.
Merci beaucoup. Merci infiniment à M. Salamoto pour l'exposé riche et très stimulant, une excellente ouverture. Merci pour votre générosité d'être venu pour quelques heures seulement pour bénéficier de tout cela. Merci à vous d'être venu nombreux pour cette séance inaugurale. Nous allons vous retrouver demain matin, je crois que nous commençons à 9h. Et demain, l'ordre des conférences qui est annoncé sur le programme va être inversé. La première, la deuxième.
C'était s'imposer. C'est plus bon comme plus. On s'était croisé à quelques occasions, mais j'ai dit que ça simplifiait.
Oui, c'est ça.
Non, mais surtout merci parce que le temps, dans votre temps, un peu surchargé. C'est à vous celui-là.
Non.
Ah non, c'était dans la star. Oui.
Merci beaucoup.
Une